Elle était en 2 ans.
Alors, à l'IUFM, l'information était en 2 ans pour les gens qui avaient eu la chance de réussir le concours. Une année, donc, de préparation au concours. Mm-hmm. Donc, les épreuves du concours. Donc, la réussite ou non au concours. Mm-hmm. Éventuellement, donc, une préparation à nouveau, donc, l'année suivante, pour tenter sa chance une seconde fois. Et pour ceux qui avaient été reçus au concours, donc, une année de professionnalisation, de formation professionnelle, donc, en établissement. Donc, dans un système d'alternance, donc, entre la présence dans les établissements et des retours, donc, à l'institut, donc, où des formateurs, donc, assuraient réellement, donc, la professionnalisation des enseignants.
Donc, est-ce qu'on peut dire pour autant que, à l'issue, donc, de toute cette période, de toute cette formation, et quand ces enseignants arrivent dans la profession, ils ont une qualification qui correspond à Bac plus 5 et validée à Bac plus 5?
Alors, donc, elle était pas reconnue réellement comme ça jusqu'à maintenant, puisque leur qualification professionnelle, c'était la licence, donc c'était effectivement Bac plus 3. Les agrégés, eux, avaient une qualification, donc à Bac plus 5, puisque pour pouvoir présenter le concours d'agrégation, il fallait avoir donc une maîtrise, à l'époque où la maîtrise donc existait. Donc maintenant, donc un master première année, l'année donc de préparation concours étant équivalente donc à un master deuxième année, sur la forme, sur la durée. Ce qui veut dire qu'après l'agrégation, on a effectivement fait 5 années d'études, mm-hmm. donc après le baccalauréat. Ce qui n'était pas le cas pour les professeurs donc de lycée-collège ou pour les professeurs des écoles. Et c'est ce qui doit changer donc à la rentrée 2009 pour les concours 2010, puisque pour harmoniser donc le cadre donc éducatif donc français avec le cadre européen, il a été décidé donc par le ministre de former les enseignants au niveau du master, c'est-à-dire donc au niveau du M2.
Mmh. Est-ce que ça veut dire pour autant supprimer les IUFM?
Alors, la réforme s'est faite en 2 temps, et le premier temps n'avait pas prévu donc qu'il y en aurait un second, je pense. C'est-à-dire que dans un souci d'efficacité, donc le ministère avait souhaité donc que les IUFM intègrent donc une université, soient attachés à une université, pour devenir donc une composante donc de formation, comme d'autres composantes, comme à l'ILA, on a des composantes, une composante donc chimie, une composante donc physique, une composante sciences économiques. Donc ça laissait aux IUFM le monopole, on va dire, donc de la formation des enseignants. Donc au cours de l'année 2008, la décision en fait de former tous les enseignants au niveau master donc modifie profondément la donne, puisque donc la délivrance donc de ces diplômes de master est strictement du ressort des universités. Ça implique automatiquement donc que les universités assurent de fait cette formation, donc la porte, avec, je suppose, chaque fois que ça sera possible, la collaboration, disons l'utilisation du potentiel donc et des compétences donc des IUFM. On voit difficilement comment donc les universités pourraient faire abstraction complète donc des personnels donc qui étaient présents dans ces IUFM avec leurs compétences et leur expertise. Hein. Ça paraîtrait donc quelque chose de pas très raisonnable.
Mmh. Alors c'est, j'allais dire, quand même bouleversement, on peut dire.
Ah, tout à fait, c'est un bouleversement complexe, donc sachant que le calendrier est très tendu, puisque le premier concours donc sur la base de ces masters doit avoir lieu, on ne connaît pas la date précisément, mais il est dit en janvier 2010. Ça veut dire pour les universités la nécessité de mettre en place dès septembre 2009 les formations masterisantes permettant l'inscription donc au concours de recrutement. Alors, je peux peut-être vous donner un point de vue qui est personnel, qui correspond à l'analyse que je fais de la situation. Ce n'est pas forcément donc la réalité.
Je vous en prie, M. Fournier.
Bon, Je pense qu'il y a souvent une confusion quand on évoque ces questions avec le grand public ou avec certains collègues même, donc entre le recrutement et la formation. Dans le nouveau dispositif, il me semble, l'accent est essentiellement mis sur ce qu'on pourrait appeler une certification. C'est-à-dire tout étudiant qui aura suivi dans les cursus adaptés une formation M1, puis M2, et aura obtenu donc cette certification en accord avec le processus de Bologne, hein, donc, qui fait référence pour les diplômes master à un portefeuille de compétences. Donc ce portefeuille de compétences étant défini pour les enseignants, tout étudiant ayant satisfait à ces contraintes sera considéré comme apte à exercer un métier d'enseignant en France ou dans un autre pays de la communauté européenne. Se greffe là-dessus, donc le recrutement par l'État employeur d'enseignants pour son propre compte. Mais rien ne dit que ça sera le seul moyen d'enseigner. Rien ne dit que d'autres dispositifs ne pourront pas puiser dans le vivier des certifiés, entre guillemets, pas certifiés au sens capétien, mais certifiés au sens enseignement, pour assurer des tâches d'enseignement s'ils le souhaitent. Pour être plus clair, disons que si vous souhaitiez, du jour au lendemain, monter donc un organisme de formation qui s'intéresserait à la formation initiale, au niveau secondaire, par exemple, vous pourriez très bien obtenir un agrément et chercher dans ce vivier des masterisés enseignement les personnels dont vous auriez besoin pour assurer la mission que vous souhaitez.
Ça veut dire la porte ouverte aux établissements privés ?
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On pourrait imaginer effectivement une situation qui tendrait, comme ça se passe dans certains pays anglo-saxons, à faire cohabiter deux systèmes donc éducatifs.
Alors, quand on parle des IFM, on pense bien sûr à la formation qui est faite par des professionnels de l'éducation et aussi aux aspects pratiques, j'allais dire aux stages dans les écoles, etc. Et qui donc permettent à des enseignants, notamment aux professeurs des écoles, de s'adapter relativement facilement au métier. Est-ce que ce sera encore le cas ?
Alors, c'est la difficulté de la réforme, c'est qu'après cette masterisation, les gens recrutés, si on reste dans le système donc d'un recrutement public par l'État, donc par le ministère de l'Éducation nationale, sont censés être des enseignants et donc seront mis en situation dans les établissements dès la rentrée suivant leur réussite au concours. Ça veut dire qu'il est prévu d'inclure donc dans le cursus de formation cette professionnalisation qui avait lieu autrefois, enfin jusque maintenant, jusqu'à ce concours-là, pendant l'année suivant la réussite au concours. Il faut donc intégrer effectivement dans le cursus de formation M1, M2, c'est-à-dire sur 4 semestres, cette partie de formation professionnalisante donc, qui s'étalait sur une année dans le dispositif actuel.
Alors, cette partie professionnalisante, pour l'instant, elle est supervisée, on va dire, par des inspecteurs de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques. Là, est-ce que ce ne serait pas plutôt des stages dans des établissements, voire des établissements privés ?
Ça, c'est encore en suspens. Je n'ai pas la réponse à cette question. Pour la région, donc Nord-Pas-de-Calais, une réflexion donc est menée au niveau donc de la conférence régionale des présidents d'université, la CRPU. Donc, dans un souci donc, d'harmoniser une offre régionale donc, de formation à ce niveau. Et je sais donc que la réflexion est très avancée donc, sur la possible utilisation des forces vives de l'UIFM Nord-Pas-de-Calais, au moins pour cette partie professionnalisante qui nécessite de toute façon des conventions avec le rectorat pour que les étudiants puissent être accueillis dans les établissements et encadrés donc par des enseignants en poste.
Alors, vous parliez tout à l'heure de bouleversements, notamment au niveau des pratiques de formation, des structures, mais dans l'esprit des enseignants en poste ou ceux qui vont le devenir mais qui ont des contacts avec le monde éducatif, c'est pas encore un plus grand bouleversement ?
Sûrement, sûrement, parce que à l'heure actuelle, donc, le métier d'enseignant est choisi par deux catégories, on va dire, d'étudiants. Donc, des étudiants dont la vocation a débuté très tôt, donc qui ont envie, donc soit parce que ils ont été impressionnés donc par des maîtres qu'ils ont eu eux-mêmes, donc et qui ont envie donc de transmettre du savoir. Donc pour ces étudiants-là, le système actuel donc était assez simple, puisque la procédure de recrutement après le concours donc leur paraissait une voie très académique, facile à suivre. Et l'ILIN, donc l'USTL, pour ces étudiants-là, avait mis en place des parcours donc de pré-professionnalisation au métier de l'enseignement, ce qu'on appelait les licences pluridisciplinaires dans notre jargon, dont les deux principales existaient en mathématiques physiques donc et en sciences de la vie et de la terre, avec donc des modules adaptés à la préparation de ces concours. Et donc les étudiants qui avaient cette vocation pouvaient, disons, dès l'année suivant leur entrée à l'université, disons peut-être pas en L1, mais dès le L2, disons, s'engager dans cette voie et acquérir déjà un début de préparation concours. Et puis il y avait une autre catégorie donc d'étudiants, ceux pour qui le projet professionnel n'était pas affiné au moment de leur entrée à l'université, qui, ayant goûté à différents modes, disons, d'enseignement, finissent par se dire bah, peut-être que le métier d'enseignant donc me conviendrait. Et on avait des réorientations donc assez importantes donc au niveau du L3, d'étudiants choisissant donc de préparer le concours de professeur des écoles, donc d'entrer à l'UFM, ou donc de préparer le CAPES donc à l'issue de leur licence. Alors pour ces étudiants-là, bien sûr, la donne va changer, puisque la barre est fixée plus haut et des discussions sont encore en cours à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conférence des présidents d'université, la conférence nationale, ou que ce soit au niveau donc de la conférence des directeurs d'UFM, qui est un organisme qui existe toujours, hein, donc sur l'exigence d'excellence disciplinaire pour les futurs maîtres. Les tenants donc d'une mastérisation de plein exercice, faisant valoir à juste titre qu'un enseignant titulaire d'un master n'a aucune raison en définitive de ne pas satisfaire aux mêmes exigences disciplinaires qu'un autre étudiant mastérisé en physique, en chimie. Et donc ça va pour ces étudiants, donc, dont la vocation n'était pas forcément très affirmée, ça va changer beaucoup les données du problème, parce que ça implique pour eux deux années supplémentaires d'études académiques, même s'il y a de la professionnalisation par ailleurs, donc qu'ils n'avaient pas envie forcément, qu'ils n'avaient pas imaginé forcément dès le départ. L'autre difficulté, c'est l'allongement de fait à Bac plus 5, donc de la durée des études, pour des étudiants donc, qui souhaitaient travailler donc, à l'issue de la licence le plus tôt possible, et pour qui cette profession donc, présentait un intérêt certain de ce point de vue-là, indépendamment de l'attrait pour l'enseignant.
Alors, peut-être un autre facteur, j'allais dire économique, pour d'anciens élèves qui étaient dans les UFM, il y avait éventuellement des salaires, des financements qui étaient versés, non ?
Disons que l'année, donc, après la réussite au concours, donc l'année de professionnalisation, les reçus étaient donc fonctionnaires stagiaires, et donc rémunérés, bien sûr,
et alors,
à ce titre-là. Pour l'instant, c'est le flou le plus complet sur, justement, le financement de ces études à ce niveau-là. Donc, est-ce que le quota de bourse sera augmenté ? Et est-ce qu'on disposera, est-ce que les universités disposeront, donc, d'un quota de bourse, disons, affecté spécifiquement donc, à ce type de formation, en plus, en échange pour elle, peut-être d'une sélection plus importante, je ne sais pas. Pour l'instant, ces questions-là ne sont pas du tout évoquées. On en est encore, pour l'instant, à la faisabilité de la mise en place donc de ces maquettes, sachant que pour les universités de la région, ça se double d'une difficulté supplémentaire, puisque nous sommes tous donc en recontractualisation, la fameuse vague D, donc contractualisation avec le ministère, hein, l'évaluation. Donc,
quand vous dites nous sommes.
Les universités de la région, l'ILA, l'ILE 2, l'ILE 3, l'ULCO, donc Littoral Col d'Opale, Valenciennes, l'Artois, donc, et que cette contractualisation doit prendre effet une fois que le ministère aura validé les parcours de formation à la rentrée 2010. Or, les dispositifs de masterisation pour les enseignants doivent être mis en place à la rentrée 2009. Mmh. Ils doivent rester cohérents, bien sûr, avec ce qui est proposé pour le nouveau contrat, mais qui n'est pas encore validé, puisqu'on est en cours d'expertise donc, par l'agence donc, d'expertise d'enseignement supérieur et de la recherche, qui a commencé son travail sur l'ILA, mais qui l'a commencé seulement par l'examen donc, d'un certain nombre de laboratoires de l'université.
Alors, on a un peu évoqué le problème des bourses, sachant qu'entre une bourse et un salaire, il y a quand même quelques nuances.
Grosse différence, tout à fait, je suis tout à fait conscient. Donc là, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Ce qu'on peut craindre, comme toujours, hein, il s'agit effectivement donc, de choses qui se racontent. Hein, donc on peut toujours faire valoir qu'il ne faut pas donner dans le catastrophisme et qu'entre des bruits qui circulent et des réalités, on peut toujours apporter des démentis. Mm-hmm. J'ai entendu dire par certains que le recours donc, à l'emprunt, donc comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, pourrait être encouragé. Mais ça, je n'ai pas d'information là-dessus.
Alors justement, vous parlez des pays anglo-saxons, d'une manière générale de l'Europe aussi, puisque le but de cet ensemble de modifications, c'est d'aligner, on va dire, les pays d'Europe sur une base commune qui permette aussi peut-être des avantages du genre des échanges entre les personnels, voire pour ces personnels des possibilités de s'adapter sur d'autres missions hors éducation nationale avec des validations de diplômes. Ça, on
tout
est d'accord.
À fait.
Parallèlement, est-ce qu'on peut dire que l'alignement sur les systèmes éducatifs européens, et vous parliez de l'Angleterre, enfin des pays anglo-saxons, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut démontrer, prouver que les systèmes anglais notamment sont aussi bons, et notamment, puisqu'on parle des personnels, aussi bons pour les personnels?
Ils sont très différents. Donc, il y a un moment que je n'ai pas rencontré donc, de collègues, anglais, donc le pays anglophone, donc je ne peux pas avoir un avis autorisé, je pense, maintenant sur la question. Ce que je peux dire, bon, il y a quelques années, je discutais avec eux donc de leur système, pas universitaire, de leur système donc au niveau secondaire, on va dire. Mm-hmm. Ils n'étaient pas contents parce que les enseignants étaient, sauf les enseignants de grands établissements prestigieux privés, assez mécontents donc, de leurs conditions de travail et de leur salaire. Donc ils enviaient le système français, donc fonctionnarisé, avec une assurance de stabilité et d'indépendance donc, dans les pratiques pédagogiques et dans la manière d'enseigner.
Parce qu'on peut dire par exemple qu'en Angleterre, les établissements choisissent directement les enseignants, un peu sur profil, sur examen, sur entretien et sur dossier.
Oui, tout à fait. Au niveau universitaire, c'est certain. Les procédures sont différentes des nôtres en matière de recrutement. Et lorsqu'il s'agit d'établissements donc, où les études donc, doivent être financées, et dans des universités prestigieuses, hein, comme Oxford par exemple, dans certains cursus, les frais de scolarité sont considérables. Donc, c'est une manière de sélectionner les meilleurs des étudiants, a priori, puisqu'ils ont un système effectivement de bourse pour les étudiants qui ne pourraient pas financer leurs études, à condition qu'ils fassent une preuve d'excellence indiscutable. Et ils recrutent donc des enseignants donc, de qualité, au moins sur renom. Hein, c'est un équilibre complexe entre la fréquentation donc, de l'établissement et l'assurance de qualité que les gens qui souhaitent le fréquenter demandent. Mmh.
Alors, si on prend l'Allemagne, par exemple, là, ce sont des politiques un peu différentes d'un land à l'autre.
Tout à fait. C'est assez différent. Donc, je connais moins bien le système secondaire. C'est pareil. Donc, hein, par tradition universitaire, je connais mieux le système universitaire. Le système universitaire allemand, lui, reste très, très, très sélectif au niveau du recrutement de ses enseignants. Mmh. Beaucoup d'entre nous auraient du mal à obtenir une chaire de professeur en Allemagne. Donc, ça reste le système peu ancien qu'on a connu donc, du temps des anciennes facultés, où il y a peu, en fait, de titulaires de chaire.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entrepris leurs études dans cet objectif, est-ce qu'on peut dire qu'à terme, l'enjeu est aussi qu'ils gagnent davantage que les enseignants actuels ?
Normalement, ils devraient, puisque la qualification donc, va les amener donc, à Bac plus 5, qui devrait correspondre, normalement, à la grille correspondante dans la fonction publique. La difficulté, c'est de faire cohabiter sur une même grille de rémunération des gens qui, à juste titre, pourraient se considérer donc comme d'un niveau académique différent. Je pense aux agrégés. Comment faire accepter, donc, au moins dans l'optique actuelle, à un professeur agrégé donc une rémunération équivalente à celle d'un professeur des écoles. Je pense qu'au départ, il va y avoir forcément donc, certaines tensions, certains pensant, à tort ou à raison, que leur qualification donc, est meilleure que celle des autres. Alors je pense qu'il faut repenser le système donc, dans son ensemble, et le processus de Bologne le dit bien. Le processus de Bologne ne cherche pas à certifier des connaissances et des savoirs. Il doit certifier donc, des savoir-faire aussi, mais surtout donc, réellement donc, les compétences professionnelles à travers le portefeuille de compétences. Donc la rémunération imaginée sous cet aspect donc, est plus attachée donc, à ce portefeuille de compétences, quel que soit le niveau où ces compétences vont s'exercer, plus qu'au savoir intrinsèque de type académique. Si on pense les choses comme ça, et si effectivement le portefeuille de compétences est respecté, et d'abord défini suffisamment précisément au niveau européen, ce qui permettra effectivement aux enseignants masterisés de circuler à travers l'espace européen, puisqu'il est assorti, ce master aussi, de certification linguistique, hein, comme vous le savez. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut dépasser donc, cette vision un petit peu ancienne donc, du diplôme assure donc, la rémunération.
Alors, vous parliez tout à l'heure des instituteurs, on pourrait aussi parler des PGC. Est-ce que aussi les certifiés seront bientôt un corps en voie d'extinction ?
Tout va dépendre donc des options du ministre. Hein, donc là, nous ne pouvons pas savoir. Ce qui est certain, ce qui est acté jusque pour les années à venir, c'est l'existence de ces corps, puisque les concours sont maintenus. Donc il y aura un concours donc d'agrégation maintenu. Donc il y aura forcément un corps d'agrégé. Le concours donc des CAPES-CAPETES seront maintenus aussi. Il y aura forcément donc un corps de certifiés. Et puis il y aura un concours spécifique pour les professeurs des écoles. Donc, on peut penser que dans les années qui viennent, cette classification ne sera pas gommée d'un coup.
Voilà, vous en savez maintenant un peu plus, chers auditeurs, sur cette grande réforme qui est engagée. Si vous aviez un vœu pour l'année 2009, ce serait lequel ?
Ah, ben ça serait que les étudiants, les étudiants qui souhaitent devenir enseignants ne renoncent pas à leur vocation uniquement à cause des incertitudes qui pèsent sur le métier. Malgré sa difficulté, ça reste quand même un beau métier. Et moi-même, en tant qu'enseignant, je suis heureux d'avoir pu l'exercer.
Merci Michel Fournier.